En ce début d'année, c'est le temps des vœux et des bonnes résolutions. Se dire bonne année, bonne santé est un rite qui permet de marquer le temps. Alors, évidemment, moi, je ne sais pas vous, mais souvent je me dis, mais finalement, à quoi ça sert? On sait que l'année va se dérouler sur 12 mois, qu'elle va comporter son lot de bonheur et de malheur, de joie et d'épreuves. Et la seule chose qu'on peut se souhaiter mutuellement, c'est d'arriver à les surmonter avec l'aide de Dieu quand on est croyant. Et pourtant, ce moment des vœux est une mise en lien précieuse. Elle permet de dire du bon à l'autre. Et vous savez comment ça s'appelle quand on dit du bon à l'autre? Ça s'appelle une bénédiction. Le moment des vœux, eh bien, c'est se bénir les uns les autres. Alors, finalement, ne nous en privons pas. Et du coup, j'ai voulu commencer l'année avec cette prière du Notre Père, parce que je trouve qu'elle nous permet de garder les yeux sur la bénédiction de Dieu, justement. Cette bénédiction qui nous accompagne tous les jours, et même si cette prière est adressée à Dieu, eh bien, en fait, elle nous édifie, c'est-à-dire qu'elle nous instruit. Jésus, par cette prière qu'il apprend à ses disciples, eh bien, nous révèle l'essentiel de ce qu'on peut demander à Dieu et l'essentiel, ce dont nous avons besoin pour vivre. Alors, cette prière est étonnante par son originalité, parce que à l'époque, dans les prières juives, on retrouvait beaucoup la notion de la terre d'Israël ou du peuple d'Israël. Quand il n'y avait pas l'un, il y avait l'autre, et parfois il y avait les deux, bien sûr. Jésus, qui est donc juif, n'en parle pas. Il ne se nomme même pas. Cette prière pourrait être dite par tous ceux qui considèrent Dieu comme un père. Ça fait partie des noms des juifs. On parle du Dieu Père dans l'Ancien Testament déjà. Mais Jésus se glisse quand même dans cette prière en parlant de Dieu comme Père, parce que c'est vraiment la révélation que Jésus est venu apporter. En appelant Dieu Père, Jésus fait une rupture avec toutes les autres appellations de Dieu, ce Dieu sur lequel et sur qui on se trompe bien souvent. Nous avons cette dénomination Père dans Luc et dans Matthieu, mais vous avez entendu la différence? Luc d'abord est beaucoup plus sobre, et dans Matthieu, donc c'est Matthieu qui a rajouté le nôtre. C'est une des sources que Matthieu a eues, et c'était le nôtre qui a été important pour lui. Mais Jésus ne dit pas non plus « mon Père ». Donc quand on dit cette prière, que ce soit dans la solitude de sa chambre ou bien dans des assemblées d'église, notre, nous disons notre, et cela nous met en lien. Ce petit mot dont on ne perçoit pas toujours l'importance nous met en lien dans une nouvelle fraternité. Jésus nous inclut dans cette relation proche de Dieu. Nous devenons les enfants de ce Dieu Père. C'est une prière qui unit et qui unifie. Elle nous rend solidaires de finalement plein de personnes que l'on ne connaît pas. Et le nôtre est une mise en lien fraternelle et communautaire à travers les distances, mais aussi les générations. Le Père que je prie aujourd'hui est prié dans toutes les parties du monde et a été prié ainsi depuis la venue de Jésus. Alors aujourd'hui, le « nous » est un peu mis à mal. C'est aussi l'occasion de se dire de quel « nous » voulons-nous témoigner en Église. Quel est le nous que nous voulons vivre? Est-ce que ce nous est fidèle à ce que Jésus est venu apporter? Un nous, on sait que le nous peut être totalitaire aussi, donc c'est une vraie réflexion à avoir, mais le nous que nous demande le Christ, c'est un nous de respect, à l'écoute les uns des autres. Et c'est finalement une des seules choses qu'on a réussi à faire dans l'œcuménisme, c'est à se mettre d'accord au moment de Vatican II, dans les années 65, sur la même version du Notre Père. Une version qui a été légèrement modifiée il y a quelques années. Et les catholiques se sont rendus compte un petit peu, ils ont voulu changer de manière un peu unilatérale et ils se sont rendus compte que quand même on était un peu dans le bateau, dans le même bateau, donc ils nous ont attendus pour qu'on le décide en synode. Cette prière est composée de deux parties. Il y a trois demandes qui concernent l'existence de Dieu, comme Père, on parle de son règne, de sa volonté, et les trois demandes suivantes concernent les besoins essentiels de l'être humain, le pain, le pardon et la libération du mal. Alors commencer par ces demandes d'abord au Père implique que notre regard se décentre de nous-mêmes, de nos soucis, de nos préoccupations. C'est ne pas se considérer personnellement comme la mesure de toute chose, mais se relier à plus grand que nous et se laisser attirer par ce Père qui nous aime. Alors je vais reprendre chaque phrase et je vais reprendre les phrases du Notre Père que nous connaissons. Que ton nom soit sanctifié. Dans la Tob, dans la traduction œcuménique, ils traduisent « fais connaître à tous qui tu es ». On parle du nom et dans la tradition juive, on ne prononce pas le nom de Dieu. Dieu révèle son nom à Moïse au Sinaï en disant « je suis qui je suis » ou « je suis qui je serai ». C'est le verbe être, c'est un être en mouvement. En devenir. Et avec le nom de Jésus, le nom de Dieu, du coup, l'image de Dieu devient plus identifiable et il arrive que nous terminions nos prières par « au nom de Jésus ». Nous invoquons ce lien indéfectible au Père par Jésus. Le mot « sanctifié » est sans doute le mot le plus difficile à comprendre. Il s'agit d'une mise à part. Dieu seul est saint. Et Dieu, Matthieu précise qu'il est aux cieux. Dieu est au-dessus de l'être humain, même s'il a voulu être proche par Jésus-Christ. Mais ça implique que nous reconnaissions sa place et son autorité. Et cela permet aussi aux hommes, à nous, de rester à notre place et de ne pas nous prendre nous-mêmes pour des dieux ou pour Dieu. Que ton règne vienne. La venue du règne de Dieu est la première prédication de Jésus. Le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous. Désirer ce règne, c'est s'engager à être à son écoute, le favoriser et le laisser nous transformer pour laisser Jésus régner sur ma propre vie. Le règne, ce n'est pas un monde parfait sur terre. Mais c'est connaître la transformation apportée par Jésus, ce mouvement de libération, de la mort à la vie, illustré évidemment de manière magistrale par la résurrection, mais ça arrive aussi au cœur de nos vies. Ce mouvement de transformation de l'échec à la vie relevée, de l'impasse à la vie créative. Le règne est le même mot que le royaume dans les textes bibliques en grec. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, la volonté de Dieu est bonne, même si je n'arrive pas à la voir tout de suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut être mystérieuse, comme la mort du Christ a été mystérieuse dans la volonté du Père. Et ces mots de Jésus pourraient être les nôtres à chaque fois que nous prions, parce que Dieu nous demande de lui demander. C'est ça qui est étonnant aussi. Il y a des personnes qui me disent « mais je ne vais pas demander à Dieu des choses ». Je ne vais pas l'embêter avec ça, mais si, Dieu nous demande de lui demander. Mais on peut finir notre prière par « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Alors il fallait la traverser de cette épreuve pour que la résurrection advienne. Discerner la volonté de Dieu est un travail de tous les jours. Elle va toujours vers plus de vie, là où l'on peut faire fructifier notamment l'âme, là où on est à une place ajustée. La sainteté de Dieu, le règne et la volonté. Alors après, s'être placé devant Dieu et devant son autorité, en fait, ça correspond un peu aux deux commandements d'amour. Quand Jésus nous dit « aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta volonté, etc. », c'est aussi dire ces trois phrases du Notre Père. Et maintenant, nous allons aborder ce qui nous concerne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Manger, boire est indispensable pour nourrir notre corps et c'est à répéter tous les jours. Il y a en fait deux mots un peu compliqués en grec pour dire aujourd'hui et quotidien. disant cette phrase, alors je ne sais pas vous, mais moi en général je me réjouis d'avoir à manger dans mon assiette et ça me permet de penser à ceux qui n'ont pas assez à manger. Peut-être que cela nous pousse aussi à partager ce pain qui est le nôtre. Mais nous sommes plus qu'un corps. Nous avons aussi besoin de sécurité, d'amour. Et le pain que nous demandons, c'est aussi tout ce qui nous fait vivre, pas seulement le pain matériel, mais aussi le pain spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le reconnaître? On trouve, par exemple, la nourriture spirituelle en lisant la Bible. Car les mots peuvent devenir une parole de Dieu en nous. Il est donné aussi dans la présence de Jésus-Christ qui nous dit « Je suis le pain de vie ». Alors tout à l'heure, nous prendrons la Sainte Cène et nous recevrons la présence du Christ à travers le pain et le vin. Et le pain spirituel est aussi reçu dans l'action de l'Esprit qui nous envoie ce que j'aime bien appeler des clins d'yeux dans nos journées, des signes. On se dit « Ah, c'est peut-être pas du hasard ». Des signes qui nous encouragent, ça peut être par les événements ou alors le soutien de l'autre. Et cette nourriture est notre force pour continuer à vivre notre engagement dans ce qui va suivre, c'est-à-dire dans le pardon et la lutte contre le mal. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et en fait, ce que ça nous apprend, c'est que juste après le pain, ce n'est pas la consommation qui est le besoin le plus indispensable à notre vie, mais le pardon. Et c'est aussi la chose la plus difficile à vivre dans nos vies. Et c'est la seule demande qui nous implique directement. Il nous est demandé à nous de pardonner. Même le pain, on ne dit pas « donne-nous notre pain comme nous aussi, on va partager notre pain ». Non, le pardon est la seule chose qui nous est demandé de faire, de vivre. Alors d'abord, nous demandons que Dieu nous pardonne, parce qu'évidemment, la culpabilité bloque nos vies, et quand on s'en rend compte, eh bien, le pardon de Dieu nous libère. Le Père a besoin de nous debout, dans une énergie renouvelée. Et j'apprends à recevoir son pardon, et en discutant avec beaucoup, je me dis que finalement, un des critères, c'est aussi parce que j'apprends à me pardonner à moi-même. C'est peut-être ça le critère de recevoir le pardon de Dieu, quand j'ai vraiment réussi à me pardonner à moi-même. Mais le pardon est un mouvement. Je ne peux pas le bloquer. Je suis appelée à pardonner à mon tour, même si c'est difficile, même si ça prend des années, et j'en parle en connaissance de cause. Je suis toujours encouragée à me mettre en mouvement par cette prière. À chaque fois que je dis cette prière, je me souviens des personnes à qui je n'ai pas encore pardonné. C'est un chemin. Et si la prière nous implique autant pour le pardon, c'est qu'elle est pour l'humanité entière une clé pour trouver un chemin de vie et de liberté. Alors après, quand on a réussi à pardonner, parce que des fois on n'arrive pas à pardonner, vous allez voir ce qui se passe quand on n'arrive pas à pardonner. Et quand on arrive à pardonner, on peut demander à Dieu, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Une des tentations, c'est de se dire, je ne pardonnerai jamais. La prière entière nous permet de cheminer pour faire face à cette question profonde de la tentation qui peut nous amener au mal, nous entraîner au mal. Et finalement, la tentation la plus grande, c'est de se faire Dieu nous-mêmes, c'est de se faire une fausse image de Dieu. La venue de Jésus-Christ est là pour limiter ce risque. Le mot de tentation en grec peut aussi se traduire par épreuve. L'épreuve, c'est vivre des événements qui peuvent nous éloigner de Dieu, de nous faire douter de sa présence, la souffrance, la maladie, le malheur dans la perte d'être cher, mais aussi les agressions, les humiliations. Et puis ce qui nous éloigne de Dieu, c'est aussi parfois le confort, la suffisance de ce que nous avons dans nos vies. L'épreuve peut aussi conduire à une tentation, celle de quitter le regard du Père, par exemple l'histoire de Caïn et Abel. L'épreuve de la jalousie amène Caïn à la tentation de tuer. L'épreuve peut conduire aussi à un repli sur soi. Jésus-Christ, en nous proposant cette prière, nous montre un chemin de vie, parce que lui a résisté à la tentation de se venger, la tentation de fuir ses responsabilités, de fuir les gens qui voulaient l'arrêter. Il a accepté ses limites humaines. Il n'a pas cherché à les transformer, mais il a lutté de toutes ses forces contre le mal et contre ce qui fait mal, en faisant advenir ce qui est bon, comme la guérison, le pardon, ou toutes ces paroles qui sont comme des lumières, qui entr'ouvrent des brèches. Oui, Dieu ne nous demande pas d'être tout-puissant, il nous demande simplement d'accepter nos limites. Et accepter nos limites, ça permet à Dieu de nous rejoindre dans le secret de nos cœurs, dans nos consciences. Savoir qu'on n'est pas tout-puissant permet de laisser de la place à ce Père et de laisser de la place à l'autre, parce que le Père aussi parle par l'autre, parfois. Se laisser habiter de sa présence nous donne la force de prendre les bonnes décisions, de rester debout, dans des milieux ou des contextes qui cherchent à nous dévier de nos routes. Dieu seul nous sauve du mal. Il a ressuscité Jésus-Christ de ce mal indicible de la croix. Et c'est en nous mettant à son écoute dans la prière qui peut nous arracher à l'emprise du mal. En fait, en priant cette prière, la prière réalise déjà ce qu'elle dit. Et le texte du Notre Père se termine là. Vous avez vu, c'est un petit peu abrupt dans les textes bibliques. Alors la tradition, au 1er siècle après Jésus-Christ, a voulu clore la prière en se recentrant sur le Père, sur le règne, sur la puissance, sur la gloire. Alors il ne faut pas se tromper de puissance, c'est une puissance d'amour. Et puis à Dieu seul la gloire, comme le dit un des principes protestants. Amen, le dernier mot de la prière. C'est un mot hébreu qui signifie « cela a du poids ». C'est vrai, c'est comme si on a posé notre signature en bas de la prière. C'est un engagement. Cela devrait empêcher de la dire comme une récitation à laquelle on ne réfléchit plus. Oui, Jésus nous a fait ce cadeau de nous laisser les mots qui ont traversé les siècles. Et cette prière, elle structure aussi toutes nos prières personnelles. Quand on veut remercier Dieu, quand on lui demande pardon et quand on a d'autres demandes aussi, quand on prie les uns pour les autres. Alors, je vous souhaite une année lumineuse dans la présence de ce Père qui nous aime et de notre frère Jésus qui se tient à nos côtés. Amen.